Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Emmanuel Auriol.
Bonjour.
Bienvenue. Mettez le micro plus près de vous. Vous êtes professeur d'économie à la Toulouse School of Economics et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission et donc avec un de ses membres chaque jeudi, également membre du Conseil d'analyse économique. Stéphane Garcillo, bonjour.
Bonjour.
Responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, également membre du Cercle des économistes. Et Xavier Thimbeau, bonjour Xavier.
Bonjour.
Directeur principal de l'OFCE. Bon, je vous refais pas tout le schéma de ce chèque dont on a parlé hier. Il est sous condition de ressources. Il faut aller sur le site du gouvernement, mettre son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et déclarer sur l'honneur que l'on a besoin de sa voiture pour aller travailler. 1 milliard d'euros mobilisés en 2023 pour cette ristourne, enfin ce chèque carburant contre 8 milliards dépensés pour la ristourne 2022 qui profitait à tout le monde. La problématique des gros rouleurs a disparu. Il n'est plus nécessaire de démontrer qu'on fait, je ne sais pas, 25 ou 28 ou 30 kilomètres par jour pour être bénéficiaire. Je posais la question comme ça, Xavier Thimbeau, je ne sais pas par quel angle vous voulez voir ce sujet. On a toujours dit d'abord qu'il fallait des aides ciblées. On peut dire que cette fois-ci, c'est ciblé.
On peut dire que c'est plus ciblé. Donc
plus ciblé.
Sur deux critères. Le premier, c'est un critère de revenu, mais qui est quand même assez large, puisque ça va jusqu'au cinquième décile de la distribution des revenus, donc la moitié en gros.
Vous considérez que c'est le revenu médian.
Voilà, alors.
C'est 1900 net le revenu médian.
C'est ça, c'est un petit peu moins en fait de la moitié des gens, parce que comme ça s'adresse aux gens qui sont aussi en activité, c'est-à-dire au travail, et ensuite qui utilisent leur voiture pour se déplacer, en fait, dans la première moitié de la distribution des revenus, on va quand même enlever beaucoup de gens. En particulier ceux qui n'ont pas de revenus d'activité ou ceux qui n'ont pas de voiture et donc qui fatalement ne peuvent pas l'utiliser pour se déplacer.
Ouais.
Donc ça ne fait pas la moitié des ménages français, ça fait moins à cause de ça. Donc c'est un ciblage, c'est beaucoup plus ciblé que ce qu'il y avait précédemment. C'est aussi beaucoup moins généreux. Alors on a quand même perdu...
Ça fait 10 centimes par litre si on fait 12 000 km dans l'année.
Voilà, c'est 10 centimes par litre en moyenne. Donc on a quand
en moyenne, oui.
On a quand même perdu une caractéristique du dispositif précédent qui était que c'était une ristourne à la pompe. Et donc, que c'était lié à votre consommation d'essence.
Ouais.
Alors, évidemment, ça ne discriminait pas les gros consommateurs qui ont une grosse voiture qu'ils utilisent pour leurs loisirs. Les gens qui font des tours de piste en Ferrari, par exemple, bénéficient.
Ça court les rues, oui.
Voilà, Stéphane a ce genre de loisirs, par exemple. Donc, probablement.
Ben, Stéphane va arrêter de faire des cours
donc,
des tours de piste en
voilà,
Ferrari.
Cas, il n'aura plus la ristourne.
Des tours de vélo.
Voilà, des tours de vélo.
Rouge.
Bon, ok, donc Stéphane n'a pas de Ferrari, mais des gens qui ont des Ferrari, qui font des tours de piste, bénéficient de cette ristourne. Mais aussi, surtout, ce que ça voulait dire, c'était vous étiez un artisan, vous faisiez beaucoup de kilomètres avec votre fourgonnette, et vous aviez, à ce moment-là, une ristourne qui était proportionnelle au nombre de kilomètres que vous faisiez. Là, c'est un chèque de 100 euros, quel que soit ce que vous fassiez. Donc, si vous faites peu de kilomètres par an, 12 000, pour votre travail, c'est très bien, mais si vous en faites 40 000, ben, vous n'allez pas recevoir plus. Et donc là, il y a un moindre ciblage dans ce sens-là.
Je vois ce que vous voulez dire.
Qui a été réalisé.
Donc, vous regrettez le côté gros rouleur qui était initialement inscrit dans le projet alors? C'était gros rouleur au début.
C'est un petit peu décevant en fait ce dispositif.
Bon.
Parce que finalement, on pouvait imaginer que cette crise, c'était l'occasion de pouvoir mettre en place des dispositifs. Alors forcément un peu plus compliqué qu'un chèque sur déclaration sur l'honneur.
Ils ont voulu faire simple, là clairement.
Oui, mais la question c'est qu'on est face à un problème qui est compliqué, qui est la transition et la protection d'un certain nombre de gens par rapport à la transition. Le fait qu'on veut quand même mettre un signal prix pour que les gens changent leur comportement. Et donc un dispositif compliqué, c'est un petit peu ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir un signal prix fort. Et en même temps, qui ne va pas mettre tout le monde dans la rue.
Ouais.
Là, on a un peu l'impression que on a un peu laissé tomber parce qu'on a dit c'est trop compliqué. On va faire un truc qui n'est pas extrêmement pertinent à un moment où les prix du pétrole baissent et où la ristourne devient symbolique.
En plus, peut-être que là, on est.
Je pense que le gouvernement est un peu se dit un peu je veux éviter à tout prix les gilets jaunes, donc je vais quand même mettre quelque chose et on va voir si ça passe parce qu'on n'est même pas sûr que ça va suffire. Bon, voilà. C'est un peu décevant de ce point de vue-là.
Okay.
C'est l'équation budgétaire est remplie, hein. On est passé de 8 à 1. Donc ça, c'est quand même, on a quand même fermé un robinet qui coulait et qui était quand même un peu trop fort. Mais voilà. C'est pas très satisfaisant sur le plan de la créativité de notre administration.
Au début, on s'était dit qu'il allait falloir mettre le nombre de kilomètres, savoir si vous aviez un tramway, un bus en bas de chez vous. Voilà. Vous imaginez le.
Mais il y avait plein de possibilités. On sait où les gens habitent, on sait où ils travaillent.
Oui.
On peut très bien regarder quelles sont leurs possibilités.
Réagir. Emmanuel Auriol, vous voulez dire un mot là-dessus?
J'étais un peu sceptique sur cette prime à la pompe pour tout le monde.
La ristourne d'avant, là.
Oui, je trouve que les Français ont économisé beaucoup, épargné beaucoup pendant le Covid, les plus riches en particulier. On a sur les thèmes d'aujourd'hui l'endettement de la France. Bon, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à effectivement ouvrir les robinets et arroser tout le monde. Et après, bon, c'est vrai que cibler les plus modestes. Moi, ce que je trouve favorable en cette nouvelle mesure, c'est que même si le prix à la pompe baisse, les ménages les plus modestes sont les plus impactés par l'inflation, qui est quand même une réalité. Et donc, c'est quand même habile, je trouve, et juste de la part du gouvernement, d'aller aider ces ménages les plus modestes. De manière simple, je ne suis pas une grande fan des usines à gaz françaises. Donc moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une transition qui, pour le budget français, pour les ménages les plus modestes et pour la justice sociale, est pas si mauvaise.
Voilà. Après, c'est vrai que l'indépendant qui roule énormément et qui n'aura que 100 euros face à celui qui roule très très peu. Stéphane, on roule là-dessus?
C'est une grosse amélioration par rapport au dispositif précédent.
C'est l'harmonie du cercle des
équipes. C'est clair que c'est assez simple, mais le problème des usines à gaz, des choses très compliquées qui remplissent tous les objectifs parce qu'elles sont très très bien pensées. La France, en fait, a une certaine science pour faire ce genre de choses. Le problème, c'est le taux de recours au dispositif. Si on arrive à faire une automaticité, parce que c'est un versement direct de l'administration sur la base de critères compliqués, soit, mais la plupart du temps c'est pas le cas. La plupart du temps on demande aux ménages de venir demander, sachant que eux-mêmes ont compris qu'ils étaient éligibles, et du coup il y a un coût vraiment à rentrer dans les dispositifs qui fait baisser le taux de participation, et du coup on rate la cible, c'est-à-dire on rate le fait d'aider les ménages qui en ont le plus besoin parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient éligibles. Donc bon, il y a un peu un trade-off à faire entre simplicité et ciblage. On a quand même fait un gros progrès sur ciblage, Xavier, par rapport au dispositif antérieur.
Bien sûr.
Tous les économistes disent qu'il faut cibler depuis des mois. Donc là, on peut considérer que.
Je pense que c'est quand même, et on va quand même avoir, je pense, que c'est très simple, un taux de participation, un taux de recours élevé.
Ah bah c'est
simple.
Vous avez trois cases à cocher, le numéro fiscal, la plaque d'IMAT. Et puis, la déclaration sur l'honneur, je prends ma voiture pour aller bosser. Si je fais 500 mètres.
Juste un chiffre sur le ciblage, quand même, pour qu'on ait bien ça en tête. Là, ça va coûter 1 milliard d'euros pour une ristourne qui est de l'ordre de 10 centimes en moyenne.
Par litre.
Donc, si on ramène au dispositif précédent, parce qu'en fait, il y a un ciblage, mais il y a aussi une réduction, qui était de 30 centimes par litre, en fait, on aurait un dispositif qui coûterait 3 milliards d'euros à comparer aux 8 milliards d'euros précédents. Alors, c'est ciblé, mais on a un ciblage, en gros, qui a réduit à 40%. Je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux que 40%. On pouvait cibler sur les 10% les plus exposés, avec un dispositif qui répondrait beaucoup mieux aux problèmes de ceux qui sont très exposés. Et c'est ça le problème, en fait. Des dizaines de milliers de kilomètres par an, en fait, qui sont dans des situations difficiles.
Mais moi, je crois qu'un des objectifs, c'est pas que les gens qui utilisent leur voiture, c'est aussi cibler des ménages modestes, tout simplement.
Il faut la plaque d'immatriculation pour
Bien sûr, il faut une voiture, mais.
Le chèque énergie, déjà, va profiter dans sa partie exceptionnelle à 12 millions de foyers. C'est quand même important. Il y a le chèque fuel qui va se cumuler également, si on est concerné. Là, on a eu le chèque bois. Bon, le chèque bois, il faut avoir des factures de bois. Le chèque fuel, il faut avoir des factures de fuel.
Un chèque bois, c'est pas un chèque en bois.
Espérons. On l'a faite le premier jour, mais on n'a pas voulu
insister.
Tout le monde, et franchement, tout le monde ne pensait qu'à ça ce jour-là. Et même en parlant, j'avais peur de faire le lapsus. Tellement c'était. Mais là, il y a chaque carburant. Mais j'entends ce que vous dites, les 10%, mais là vous m'auriez dit, les 10%, mais effectivement il y aura des trous dans la raquette et il y a celui qui... Bon.
Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel, c'est important de voir que c'est un chèque pour les ménages qu'ils peuvent utiliser en fait comme ils veulent.
Voilà.
Mais exactement.
Y compris pour réduire un peu leur consommation pour ceux qui peuvent. Alors d'accord, il y a des trous dans la raquette, les gros rouleurs.
C'est la critique qui a été faite hier.
Bien sûr, et c'est la réalité. Cela étant, parmi les ménages qui ont une voiture et qui ont les moyens de réduire un peu leur consommation, le chèque est beaucoup plus efficace que le prêt à la pompe. Du coup, c'est beaucoup plus compatible avec d'autres objectifs de réduction des émissions, etc. Donc bon, voilà. Finalement, ça a aussi certaines vertus.
Mais le couple qui habite dans une commune rurale à la montagne.
Moi.
Et qui doit faire beaucoup de kilomètres pour aller à son travail, amener ses enfants à l'école ou amener ses enfants dans leurs activités, puisque c'est pas parce qu'on habite dans la montagne qu'on n'a pas le droit d'aller au football le samedi après-midi. Bah, ce couple-là, avec deux enfants.
Il n'y en a pas beaucoup quand même.
Il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il a un vrai choc en fait sur son mode de vie.
Il y aura toujours.
Oui, mais bon.
Ça peut pas être totalement.
Ça va dans le bon sens.
Ça peut pas être universel. Non. Enfin, je vois pas. Il y a un moment. Quand c'est universel, ça s'appelle la ristourne 2022. Et alors là, effectivement, après on dit oui, celui qui prend son gros SUV, qui est plein de, qui a de quoi se payer son carburant 2,50, il en profite. Après, on n'est jamais content, en fait, Xavier. C'est ça le truc. Je me rends compte que dès qu'il se passe quelque chose.
Ça, c'est Xavier qui n'est pas content.
Hein. C'est une jolie formule.
Il faut toujours être exigeant et donc jamais complètement satisfait. On peut toujours faire mieux. Je veux dire, on ne peut pas dire, voilà, là, on a le dispositif parfait et on est prêt pour faire la transition environnementale avec ce dispositif. Ce n'est pas vrai. On peut dire que c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Ça, je souscris complètement.
D'accord.
Mais.
Pour aider les plus fragiles, il est possible de mettre en place un crédit d'impôt dégressif selon le revenu fiscal de référence sur la base des revenus déclarés, j'imagine.
Bien sûr.
C'est un auditeur qui s'appelle Duguidon qui me dit ça.
Bien sûr.
Il y a Evelo, lui.
C'est une possibilité pour faire un dispositif qui ne serait pas très compliqué, c'est de coupler ça à la déclaration d'impôt et d'utiliser tout ce qu'on sait dans la déclaration d'impôt pour, à la fin de l'année, verser quelque chose qui correspond mieux à la situation des gens. C'est plus compliqué, mais pas si compliqué que ça, parce que la déclaration d'impôt, elle est déjà compliquée. Il faut déjà déclarer sa situation familiale, il faut déjà déclarer
C'est aussi plus dur à mettre en œuvre. Au sens, dans l'urgence, les dispositifs compliqués, c'est une ingénierie dont on sous-estime le temps. Il faut voir que les services à Bercy, pour sortir des choses un peu intelligentes avec la déclaration, c'est pas totalement presse-bouton. Ça prend quand même quelques mois. Quand on est dans une situation d'urgence, envoyer un chèque, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et là, il est ciblé sur un critère hyper simple. C'est pas trop compliqué et ça va beaucoup plus vite.
Et puis bon, le gouvernement a été traumatisé par les gilets jaunes. Il faut pas l'oublier. Donc l'essence, on veut vraiment éviter ça maintenant, quoi. D'avoir la France à l'arrêt en plus par des manifs, par des blocages, c'est pas le moment. Donc il y a ça derrière.
Il y a des marqueurs dans l'histoire qui marquent les choix politiques. Et effectivement, les gilets jaunes, c'est un marqueur qui va laisser une trace indélébile sur certains sujets. De la même manière, je l'ai déjà dit, que le tragique décès de Malik Kousseki a profondément modifié la doctrine du maintien de l'ordre en France. Là, on n'est pas sur l'économie, mais on voit que ce sont des marqueurs au long cours. J'ai mis dans l'actualité économique du jour l'immigration. Parce qu'Emmanuel Auriol, vous avez commis pour le Conseil d'analyse économique une note sur l'immigration. On a plein de sujets politiques autour de ça, mais on a aussi des sujets économiques. Immigration choisie ou pas immigration choisie. L'appel de Thierry Marx à régulariser de manière rapide, dit-il, les travailleurs, parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Quel est le message que vous avez voulu faire passer dans cette note, Emmanuel Auriol?
Oui, donc en fait, on avait commis cette note un an, on avait commencé à travailler dessus un an avant la campagne électorale, on anticipait que ça allait être un sujet, évidemment. Et nous, ce qu'on voulait rappeler, c'est que 95% de l'immigration sur Terre, c'est une immigration à motif économique, absolument pas autre que celle-là.
Hein. 95% des flux sont pour des raisons économiques.
Oui, donc pour travailler, pour étudier, voilà. Et donc, le débat français complètement arc-bouté sur des questions identitaires et sécuritaires passe à côté vraiment des enjeux de l'immigration. Dans notre pays, on compte les immigrés comme on compte les morts sur la route. Il y avait des candidats qui proposaient de la réimmigration. Enfin, c'est quand même incroyable, sachant que, évidemment, les immigrés contribuent grandement à l'économie d'un pays. En particulier, et c'était l'objectif de notre note, les immigrés qualifiés.
Donc, j'ai vu les étudiants qui ont une contribution nette positive à la France.
Et alors, les immigrés qualifiés, alors, dans notre travail, on le sait bien, par exemple, nous, on pratique évidemment en recherche l'exogamie. Si on enlève tous les immigrés en recherche, mais on est à poil quoi, en France. Donc, ne pas vouloir d'immigrés, notamment qualifiés, c'est une erreur. Par exemple, aux États-Unis, ils sont 13% de la population américaine. Ils sont 26% parmi ceux qui posent des brevets et 26%, 25% parmi ceux qui créent des entreprises. Donc, il y a une surreprésentation des immigrés qualifiés parmi les créateurs d'entreprises, parmi les innovateurs et bien sûr parmi les exportateurs et importateurs, parce que c'est des ponts dans la globalisation. quand ils sont qualifiés en particulier. Et pourquoi ? Bah parce qu'en fait, les immigrés, c'est pas des gens ordinaires, c'est des gens qui s'auto-sélectionnent et qui aiment le risque. Parce que pour aller décider d'aller habiter à 8000 km de chez soi, sans son réseau, sans ses aides, sans sa nourriture quotidienne, que tous les auditeurs s'imaginent faire ça, c'est très coûteux en fait. Moi, je l'ai fait pour mon travail, je trouve ça très coûteux. C'est pas toujours agréable. Et donc, c'est des gens qui sont très ambitieux, qui aiment le risque. Et pour être un entrepreneur, pour être un innovateur, pour faire de l'import-export, et c'est des qualités indispensables. Donc, ce n'est pas un hasard. Et la France en a énormément bénéficié dans le passé. Hein. On a eu des Picasso, on a eu des Marie Curie. Ils sont où aujourd'hui, tous ces gens ? On ne les veut pas, on veut les réémigrer. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Donc, pour notre intérêt purement égoïste économique, notre stratégie n'est pas la bonne. Et en plus, en ce moment, et c'était vrai avant la crise du Covid, il faut quand même le rappeler, nos entreprises cherchent des salariés. Hein. C'était vrai avant, et alors là, c'est encore pire aujourd'hui. Il y en a une sur deux qui cherche des salariés, d'où l'appel...
Thierry Marx, pour l'UIMH, il a été élu à la tête de l'UIMH.
Alors, c'est vrai aussi pour les travailleurs non qualifiés, moins qualifiés, j'aime pas ce terme non qualifié, mais moins qualifiés, qui contribuent évidemment aussi positivement à l'économie. On se souvient des gens qui nous apportaient à manger pendant le confinement. Enfin donc il y a vraiment un apport aussi de gens peu qualifiés, mais l'immigration qualifiée, c'est particulièrement productif. Donc bon. Voilà.
On sait faire ça, l'immigration qualifiée, parce que je ne sais pas si on l'a déjà pratiquée en France, cette fameuse immigration choisie. En fait, c'est presque une immigration. Montrez-moi votre CV, je vous dis si vous pouvez rentrer.
C'est ça le principe. L'immigration choisie, c'est très, moi je trouve, connoté politiquement, oui, parce qu'il y avait ce clivage politique. Je pense que ce n'est pas une bonne façon, là encore, de présenter ce débat. On parle d'immigration de travail, les entreprises choisissent leurs salariés, donc c'est normal de se demander si j'ai besoin d'une infirmière ou d'un ingénieur en informatique ou d'un serveur. Quand on parle d'économie, il y a des besoins et est-ce qu'on peut les remplir. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'aller vers ce qu'a fait le Canada, de changer vraiment notre logiciel vis-à-vis de l'immigration en France. Des pays l'ont fait, par exemple l'Australie était très fermée à l'immigration, notamment enfin, à toute immigration, mais économique aussi. Ils ont complètement changé leur façon de gérer l'immigration. Le Canada n'avait pas un visa à point autrefois. Ils l'ont introduit. C'est des choix politiques de réformer les politiques migratoires. Et nous, on propose de faire la même chose, c'est-à-dire d'introduire un visa à point. Pour l'instant, il faut savoir qu'il n'y a aucun canal pour un immigré, notamment qualifié, pour venir en France spontanément, si ce n'est... Le passeport talent, c'est 12 000 titres par an, bon, peanuts, quoi. Et donc, comment on fait ? Si vous êtes quelqu'un de qualifié, vous dites, tiens, j'aimerais bien aller en France, ben, vous ne pouvez pas. Il faut qu'une entreprise vous réclame. C'est pas très malin. Honnêtement, c'est pas très malin.
On marque une pause. Vous réagirez sur ce sujet. Je crois qu'on n'en a quasiment jamais parlé dans cette émission. Il y a Nouge qui m'écrit. Vous tenez vraiment à votre histoire de signal prix, me dit-il. Quand l'inflation
c'est
est à
10... dit, oui.
Oui, mais non, mais vous n'êtes pas le premier, Xavier.
Oh, mais je le redirai aussi.
Ouais, ouais, mais oui, mais il continue non, Nouge. Mais,
je pense qu'il faut, il faut arrêter avec la diabolisation du signal prix. Beaucoup d'économistes ont été très naïfs en disant que c'est la seule solution. Et une fois qu'on a fait le signal prix, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ça n'est pas vrai, mais le signal prix, il est indispensable. Bon. On ne change pas les comportements.
On marque une pause, mais il termine, Nouge, en disant quand l'inflation est à 10%, bon, elle n'est pas à 10% en France, elle est à 6,2. Hein. Est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce que si on diffère de 12 mois ce signal prix parce que la situation est très compliquée, c'est une catastrophe ? Dis-moi. C'est toujours l'histoire de... Il faut le faire, mais c'est jamais le bon moment. Vous avez vu, les retraites, c'est pas le bon moment.
L'inflation, il y a une histoire de poulet d'œuf. L'inflation, c'est la hausse des prix de l'essence. Donc, c'est la hausse des prix de l'essence.
Pas que,
quand même. C'est pas que ça, mais c'est quand même en partie ça. Enfin, les prix
en
d'énergie.
Partie, mais pas que.
Et ça, c'est un signal prix qui est quand même extrêmement important.